Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le Gratin ? Eh bien, ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine, que ce soit en pâtisserie, karaté, neurosciences, management, kickboxing, cyclisme, running. J'ai aussi eu des CEOs de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de start-up. Au final, j'interview des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, vous l'aurez compris, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le gratin Florence Servan-Schreiber. Florence est journaliste, auteure et conférencière française. Vous la connaissez sans doute pour ses best-sellers Power Patate ou La Fabrique à Kiff. Elle sort le 3 juin Bloom, un nouveau livre avec pour ambition de donner à chacun l'envie d'écrire. Un sujet qui me parle, vous en doutez. Pourquoi écrire ? Pour se lâcher, se trouver, se soigner, témoigner ou raconter. Si vous voulez saluer Florence ou en savoir plus sur ses activités et son parcours, eh bien retrouvez-la tout simplement sur son site florenceservanschreiber.com ou pourquoi pas via LinkedIn où vous pourrez lui faire un petit coucou. Je vous mettrai en tout cas tous ses contacts sur le blog du podcast. Formée à la psychologie transpersonnelle en Californie, Florence va ensuite se tourner vers des études de psychologie positive qui va devenir sa vraie passion. Vous allez voir, Florence est une bombe d'optimisme et de bonne humeur. Et cette qualité, elle en a d'ailleurs fait son métier. Alors avec Florence, on a bien sûr évoqué son parcours et comment elle avait trouvé sa vocation pour la psychologie positive. On a aussi parlé de ses activités de conseil ou de formation avec la 3 Kiff Academy, mais aussi de sa rencontre complètement dingue avec Tony Robbins, de la difficulté de réinventer le métier de conférencier en pleine crise de Covid, de son nouveau livre Bloom, donc bien sûr, et d'écriture, et enfin de ses astuces pour essayer de capter cette émotion si intime qu'est le bonheur. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence et bienvenue sur le gratin. Je suis ravie de vous accueillir.
Bonjour Pauline.
Merci d'avoir accepté de faire ce rendez-vous à distance. En plus, on a eu toutes les deux un petit peu de mal à se caler, mais je suis ravie du coup qu'on soit là. Je voulais, si ça vous va, commencer par vous poser une question sur une citation que j'ai trouvée parce que je fais toujours mon homework et j'ai un petit peu farfouillé sur votre parcours. J'ai trouvé cette citation intéressante et je voulais bien que vous m'expliquiez en fait à quoi elle fait référence. Vous disiez, je crois, « Si quelque chose ne marche pas et qu'on ne change rien, il n'y a pas de raison pour que cela marche mieux. » Donc assez simplement, je voulais que vous m'expliquer ce que vous vouliez dire par là, si ça faisait référence peut-être voilà, à une personne, ça faisait référence à un événement, une expérience que vous auriez pu vivre.
Alors, ça fait référence à peu près aux 290 expériences que j'ai déjà pu vivre. En fait, on s'aperçoit souvent que face à une difficulté, on a tendance à reproduire, enfin, il peut arriver hein, qu'on reproduise le même comportement en espérant que ça change. Et c'est impossible. C'est-à-dire que si on s'y prend toujours de la même façon, si on continue à faire toujours la même chose, ça ne peut pas se modifier. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis très tôt. J'ai appris ça, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Tony Robbins. Alors, Tony Robbins est un personnage assez caricatural. Il est très grand, il a une très grande mâchoire. Il a maintenant une espèce de posture de gourou. Ouais. Bon, un peu comme ça. Mais je l'ai croisé lorsque j'avais 19 ans, lui devait en avoir 19 et demi. Et en fait, c'est lui qui a dit ça, qui a dit cette phrase. Il a dit « If something doesn't work, try something else ». Et c'est vraiment cette idée que si on s'obstine, il ne va rien se passer de différent. Je trouve que là, nous, à l'heure où nous vous parlons, vous et moi, nous sommes confinés l'une et l'autre. Donc, peut-être on va certainement en reparler de cette situation-là. Mais voilà exactement un moment où si on essaye de continuer à faire exactement comme nous faisions il y a 4 semaines, eh bien, c'est impossible. Le résultat ne changera pas. Donc, il va falloir faire autrement. Parce qu'en tout cas, en ce qui concerne mon activité, mon entrepreneuriat, enfin tout ce que je fais à titre professionnel, là c'est facile, plus rien de ce que je faisais avant ne peut marcher. Il faut donc tout changer.
Ça, tout c'est sera inventé. Et vous constatez, puisque vous êtes finalement quelqu'un qui accompagne énormément de dirigeants, notamment dans le cadre de vos formations, de tous les livres que vous avez écrits, vous constatez justement que paradoxalement, parce que ça peut paraître un peu évident, ça paraît être du bon sens, mais la raison pour laquelle j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'en réalité, moi-même, je me rends compte que bien souvent, quand je me plains que quelque chose ne fonctionne pas, bah, j'ai un peu l'impression de continuer. En fait. Enfin, je m'en rends compte a posteriori, hein, mais souvent, en fait, je testais tout le temps la même chose et je ne changeais pas, en fait, ma manière de procéder. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. Est-ce que vous constatez que, justement, c'est un mal, entre guillemets, qui est assez fréquent? Et si oui, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, peut-être un outil, une technique, une idée pour essayer de faire prendre conscience aux uns et aux autres de quand on arrive dans cette situation et que, finalement, on se dit « Non, mais en fait, là, c'est juste que je suis en train de refaire systématiquement la même chose. »
La technique la plus simple, c'est d'en avoir conscience. Ça paraît un peu bateau ce que je vous dis là, mais il est pour moi tellement important de se déplacer avec un périscope planté sur la tête. Alors, on n'a pas besoin de l'activer tout le temps, ce périscope, mais lorsqu'on est dans des situations qui, en effet, sont bloquées ou bloquantes, des relations qui sont difficiles, des projets qui ne sortent pas de terre, des résistances de la part de nos clients, par exemple, alors qu'on trouve nos idées absolument formidable. Typiquement, oui. S'il y a des résistances, c'est pas parce que l'idée n'est pas bonne, c'est parce qu'elle a pas été comprise. Donc, vous voyez ça, par exemple. Alors, ça c'est une façon, c'est une autre de mes maximes, c'est que les gens ne sont jamais bouchés. Mmh. On ne leur a juste pas encore expliqué les choses de manière à ce qu'ils les comprennent. Donc, c'est exactement le même principe. C'est que si je continue à répéter à ma collaboratrice exactement la même chose en espérant obtenir un résultat différent, il ne se passera rien. Alors que si je comprends qu'en le formulant autrement ou en m'intéressant à son mode de pensée ou de compréhension, à ce moment-là, je peux réformer ce que je suis en train de lui dire et il va se passer autre chose. Donc, c'est vrai que nous le faisons tous. Et alors, quel est le... Justement, vous me parlez d'un outil, mais quel est plutôt le réflexe? C'est quand on constate qu'on se heurte contre quelque chose, eh bien, de se voir le faire. Ça, c'est la première chose à faire. C'est de constater qu'on est en train de reproduire la même chose en espérant toujours un résultat différent. Et à ce moment-là, on peut commencer à réfléchir, mais il faut d'abord s'en rendre compte.
Vous me disiez en préambule donc que cette phrase faisait non pas référence à une expérience, mais aux 280 expériences, ou je me rappelle pas quel chiffre vous avez dit expérience, ben voilà que vous aviez vécu à cet égard. Est-ce que vous auriez justement un exemple peut-être pour que ce soit parlant, peut-être avec un collaborateur justement sur finalement ce changement de paradigme. Vous avez commencé à faire quelque chose et juste, mais c'est bête, un changement d'une manière de s'exprimer, un reframing comme ils disent en anglais, c'est-à-dire le fait de reformuler, de recontextualiser différemment quelque chose. A fait que la personne l'a compris. Est-ce que quelque chose peut-être vous vient en tête?
Je pense que c'est plus que de repenser à quelqu'un à qui j'aurais dit quelque chose. Je préfère rester portée sur mes activités, comment dire, et la façon dont j'ai peut-être moi pu m'obstiner jusqu'à ce que j'ai compris qu'il fallait que je m'y prenne autrement. Il y a un exemple qui me vient très très fortement. J'ai pas mal écrit là-dessus parce qu'évidemment, ayant pas mal réfléchi à cette situation-là, ça m'a permis aussi de me rendre compte de ce que j'ai fait et de ce qui m'a permis finalement d'avancer. C'est dans cet exemple que je prends souvent lorsque mon emploi m'a quitté. Alors, c'est donc ce qui était un peu à l'origine du moment où je me suis penchée sur la psychologie positive et c'est ce qui m'a ramenée à l'école, en fait, ce qui m'a ramenée à l'université. pour apprendre cette psychologie positive. Mais toujours est-il que quand cet emploi m'a quitté, donc me voilà donc tout à fait au chômage. Et là, il faut que je me retrouve un job, en fait. En général, c'est ça la réflexion, la réaction, c'est de dire « Ok, donc qu'est-ce que je peux faire ?» D'abord, évidemment, je commence par partir du principe que je suis inemployable, parce que sinon, je ne serais pas là où j'en suis. Et puis, je me précipite chez quelqu'un pour faire un bilan de compétences, en disant bon, c'est le moment ou jamais, parce que c'était un de ces moments de surtout professionnel, j'en ai vécu plusieurs, où j'arrive en fait en fin de course, en fin de paradigme. Vous savez, il y a, en tout cas chez moi, je découvre des choses qui me passionnent, qui m'entraînent, qui m'inspirent, qui créent chez moi une ébullition créative ou en tout cas d'énergie. Et puis, comme tous les cycles, il y a un moment absolument d'apogée et puis après, ça va devenir un petit peu plus usuel, un petit peu plus habituel et puis je vais me lasser, puis ça ne va plus m'intéresser, puis probablement je ne vais plus bien le faire. Et c'est ce qui s'était produit. Donc, c'est comme ça que je m'étais retrouvée, je dirais, au bas de ce cercle. Vous voyez, ça avait monté, hop, j'étais redescendue au rez-de-chaussée. Donc là, je me suis dit, je vais me faire aider et je vais essayer de regarder ce que je sais faire. Et donc, j'ai eu une approche comme ça, assez persévérante, qui était d'aller tout lister, poser des questions à plein de gens. Enfin, j'ai fait tout. Si vous avez déjà fait un bilan de ce genre, vous voyez à peu près la mécanique. Pour que finalement, la dame me dise, Florence, avec vous, ça va être un petit peu plus long. Je suis désolée parce que vous n'avez évidemment absolument pas trouvé. Mais donc voilà, je m'obstinais à faire comme je pensais que l'on devait faire dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire retrouver une employabilité le plus rapidement possible, rentrer dans une boîte, à tous les sens du terme, hein, dans une case, parce que les cases sont réconfortantes et c'est pour moi le dernier truc à faire. Donc, j'ai fait autre chose. Et j'ai laissé tomber complètement en me disant, ok, ça va être trop long. J'avais plus envie de voir cette dame. J'avais plus envie qu'on me dise que je ne pouvais rentrer dans aucune boîte. Et je me suis finalement laissée entraîner parce que j'avais déjà commencé à côté. Donc, vraiment comme une distraction qui était précisément l'étude de la psychologie positive avec Tal Ben-Shahar qui, à ce moment-là, prodiguait un cours en ligne. Tal Ben-Shahar, c'est le professeur de Harvard qui avait décidé déjà, c'était il y a une dizaine d'années, de digitaliser tout cet enseignement, ce qui a permis à des gens comme moi dans le monde entier d'y avoir accès. Et de me rendre compte que ce que je faisais à côté pour m'occuper et me distraire, parce que la période était quand même assez sombre, était totalement passionnant. Et que je n'avais juste pas fait suffisamment attention, ou en tout cas, il m'a fallu ce temps-là, et il faut toujours ce temps-là, pour me rendre compte que j'avais déjà entrepris quelque chose. Mais je ne m'en étais pas rendu compte parce que j'étais trop occupée à essayer de faire comme je pensais qu'il fallait faire pour me recaser, en fait. Et c'était le début d'une aventure incroyable, parce que ça dure depuis 10 ans, cette affaire.
C'est incroyable. J'adore cet exemple et je vous remercie parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes qui essayent toujours cette idée d'entrer dans une case, de finalement suivre la route qui est toute tracée, puis finalement écouter cette petite voix et puis surtout la passion qui vous habitait sur un sujet complètement annexe, mais dont vous avez finalement réussi à en tirer un métier que vous avez créé pour vous-même. Justement, si on passe un petit peu du coq à l'âne, mais pas totalement, je voulais revenir sur la plus jeune Florence, notamment sa voir ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite, parce que du coup là vous avez pris une voie, donc on a parlé de la psychologie positive et finalement une vie de un peu slasheuse, si je puis dire, de quelqu'un en fait qui a plein d'activités, qui a énormément de créativité, d'énergie. Je me demandais quel était votre rêve petite, est-ce que vous aviez une idée, est-ce que justement on vous avait peut-être déjà mis dans une case à l'époque?
La seule idée que j'avais, et qui d'ailleurs que je suis arrivée à concrétiser, parce que j'ai vraiment c'est un slalom géant dans lequel je me suis lancée avant d'y arriver, mais c'est quelque chose que j'ai fini par exécuter jusqu'à l'année dernière. Je voulais être Julie Andrews. Voilà, Ça, c'était le plan.
Alors, expliquez-moi, Florence, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Julie Andrews est donc une actrice, une comédienne de théâtre anglaise. Elle chante, elle danse à merveille. Donc, c'est elle qui a tenu le rôle de Mary Poppins dans évidemment la première version de Mary Poppins. Également le rôle de Maria dans La Mélodie du Bonheur. C'est une artiste totalement accomplie. Et donc, en fait, j'avais envie de chanter, de danser sur scène et de jouer la comédie avec un accent anglais.
D'accord.
C'était ça. C'était mon idole absolue. Donc, si vraiment, c'est quelque chose que j'ai, avec lequel, une image, en tout cas, avec laquelle j'ai reconnecté assez tardivement, tout à coup en me rendant compte, parce qu'on m'a posé cette question en me disant, mais Florence, en fait, que vouliez-vous faire quand vous étiez petite? Et c'est pas quelque chose que je me suis souvent demandé. Et au moment où je me suis reposé cette question, la seule chose qui est sortie de ma bouche, c'était ça. C'était, en fait, j'avais envie d'être Julie Andrews. Et donc, la personne qui était en face de moi m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, comme vous venez de le faire?
Comme moi.
Et j'ai dit, finalement, cette Julie Andrews, j'y suis presque. Parce que une partie de mon métier est d'être sur scène, puisque je donne des conférences, donc une partie de mon métier est de formuler des choses, de le formuler avec le plus d'énergie, d'entrain, de clarté, d'inspiration possible. Donc nous avons ça en commun, elle et moi, sauf que elle chante, elle danse, elle joue la comédie, elle porte des costumes et il y a des décors derrière elle. Et donc, j'ai réalisé que, j'avais vraiment envie d'être comédienne quand j'étais petite. J'étais absolument dans tout, je jouais dans toutes les pièces de théâtre de l'école, du lycée, etc. Et je n'en ai rien fait. Si ce n'est que je passe mon temps quand même à prendre la parole dans des circonstances comme ça. Donc, je me suis donné l'occasion d'aller faire ça en créant un spectacle, en fait.
Voilà. Merci beaucoup
cette
explication.
J'ai fini par le faire.
Exactement. On va vous appeler Julie Andrews maintenant. J'attends la chanson à la fin de l'épisode, alors.
non, c'est ça. Je chante vraiment très, très mal. Mais il y a des façons. Si on a besoin d'un petit peu de soutien, il y a des façons maintenant.
Bon. Je voulais vous demander, donc vous n'êtes pas devenue Julie Andrews totalement, même si un petit peu, mais vous décidez de vous lancer dans des études de psychologie, de PNL aussi, j'ai vu, aux États-Unis. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous avait attiré à l'époque dans ces formations, parce que c'était extrêmement précurseur, si je me suis pas trompée, c'était dans les années 80. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, enfin là, on parle maintenant beaucoup de psychologie positive. Enfin, je pense que toutes ces notions sont revenues à la mode, mais c'était vraiment pas le cas à l'époque. Qu'est-ce qui vous a fait tomber un petit peu dans cette marmite?
Le Far West. C'est une notion chez moi, le Far West, qui revient assez souvent. Alors bon, d'abord, je suis partie faire mes études universitaires en Californie, mais à l'origine, je suis partie faire des études de cinéma. J'avoue être partie complètement paumée. J'ai eu mon bac très jeune et voilà, mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'en avais pas la moindre idée. Pendant 2 ans, j'ai essayé des trucs, ça marchait pas, ça m'intéressait pas. J'ai commencé des études que j'ai arrêtées, etc. Et c'est sont un peu eux lassés qui m'ont dit, bon, écoute, regarde quand même aux États-Unis, parce que l'enseignement est très différent, beaucoup moins spécialisé. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de démarrer. Je me suis dit, bon, bah après tout, le cinéma, pourquoi pas? Et me voilà donc partie en Californie. Le cinéma, je commence par étudier ça. De toute façon, les deux premières années sont assez générales. Et c'est là que je tombe sur le fameux Tony Robbins. Donc,
alors, racontez-moi quand même la rencontre, parce que c'est
fou,
cette histoire.
Oui, alors, j'ai 19 ans et je vois une affiche sur laquelle il y a écrit « Fear into power », donc « Transformez votre peur en pouvoir, venez marcher sur le feu ». Et c'est le genre de choses qui, dans mon cerveau, peut faire des étincelles. Et je me dis, mais il y a des gens qui marchent sur le feu. Donc déjà, je découvre que c'est possible, que ça existe. Et à ce moment-là, en général, ce qui suit, c'est s'il y a des gens qui font ça, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le faire? Et donc, je me renseigne un peu. Et donc, j'apprends qu'il y a un gars qui on vient passer une soirée. Et entre le début et la fin de la soirée, on aura marché pieds nus sur un lit de braise qui fait à peu près une vingtaine de mètres. Et donc, je m'inscris. Alors, comme j'avais 19 ans, quand même, j'avais appelé mes parents en France en disant, voilà, il y a un truc, ça a l'air super. Et très gentiment, ils m'ont dit, bah, écoute, oui, je sais pas, vas-y, enfin, c'est toi qui vois. Et j'y suis allée. Et donc, j'ai traversé ce lit de braise pieds nus après une préparation qui avait l'air comme ça extrêmement élaborée, mais je vais découvrir plus tard qu'elle était assez simple. Ce sont des conditionnements et des ancrages qui permettent de faire des choses incroyables. Mais n'empêche, c'était ma première rencontre avec l'idée que la matière humaine et que l'individu est transformable et perfectible. Et quand je dis transformable et perfectible, c'est pas du tout dans un souci de performance, mais c'est dans une question de pilotage de soi-même. Et j'avais détesté mon adolescence, c'était pas un moment agréable, j'en étais pas très loin, parce qu'à 19 ans, tout ça était quand même assez récent, donc c'était mes souvenirs les plus récents. Et je me souviens m'être dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas ces trucs-là plus tôt? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais le développement personnel, et j'étais quand même au cœur de, enfin, la Californie, c'est le cœur de l'endroit où on se pose des questions sur soi, où sont faites les expérimentations, où les raisonnements sont complètement ouverts, où les expérimentations sont possibles. Enfin, c'était vraiment l'endroit où être pour ça. Donc, j'ai tout à fait arrêté le cinéma, j'ai changé d'université, je suis partie vivre à San Francisco, qui est beaucoup plus connectée à cet univers-là que ne pouvait l'être Los Angeles, qui a quelque chose de plus superficiel et cinématographique. Et à partir de là, je me suis complètement éclatée et formée à la PNL. J'ai rejoint une université qui était à ce moment-là une université New Age, où il y avait à la fois des cours de soufisme, donc de danse soufie rituelle, intercalée avec des cours de psychologie clinique. Et c'est comme ça que donc j'ai fait des études de ce qui s'appelle de psychologie transpersonnelle, qui allie à la fois la psychologie clinique et la spiritualité. Et j'avais trouvé ma pâte à modeler, en fait.
Vous aviez trouvé donc, ouais, votre vocation.
J'avais trouvé vraiment ce questionnement qui n'était pas médical pour moi. Je ne voulais soigner personne, mais je suis absolument passionnée par notre fonctionnement, justement ce périscope dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui nous regarde d'au-dessus, la façon dont nous pouvons nous regarder d'au-dessus ou d'à côté, à droite, à gauche, peu importe, pour voir s'il y a quelque chose qui peut être changé. Parce que si ça ne va pas, eh bien, on peut s'y prendre autrement.
C'est ça, on peut s'y prendre autrement. Et on peut marcher sur des braises. Vous disiez tout à l'heure, justement, en revenant sur cette anecdote, mais j'imagine que vous en avez d'autres en tête, que vous aviez finalement appris des techniques assez simples, que les techniques mises en œuvre à l'époque par Tony Robbins, c'était assez simple. Est-ce que, sans rentrer dans des détails, mais juste peut-être pour expliquer aux quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est que la PNL, expliquer en quelques mots, si c'est possible, qu'est-ce que c'est ou toutes ces ancrages dont vous parliez, qu'est-ce que ça pourrait signifier, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si la question est claire et si elle est simple, mais juste essayer de concrètement rendre visuel, si vous voulez, ce que ça veut dire sur quelqu'un.
D'accord. Alors je vais peut-être prendre l'exemple précis de la marche sur le feu. Parce que plutôt que d'expliquer ce qu'est la PNL en long, en large ou en travers, en fait, nous pouvons associer des émotions avec des sensations physiques qui, au moment où... Alors, imaginons très concrètement, je vous demande de repenser à une situation où vous vous êtes senti particulièrement bien, vous étiez en train de faire quelque chose qui vous a procuré des satisfactions, vous éprouviez comme ça une impression de puissance, de contrôle, de centrage, vous étiez là, c'était bien, c'était formidable. Donc, je continue à vous parler comme ça pour que vous ressentiez tout ça et je vous demande de serrer le poing pendant ce temps-là. Et nous allons recommencer une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, vous allez serrer le poing. Ce qui va se passer, c'est que quand, dans 10 minutes, je vais vous demander de serrer le poing, vous allez faire remonter les sensations dont nous venons de parler. Donc, un exemple d'ancrage, c'est ça. C'est donc de relier une sensation physique, quelque chose que l'on peut activer de façon mécanique, qui va entraîner toute une série de sensations intérieures. Et pourquoi je vous dis que ce qui s'est passé avec Tony Robbins, c'est que donc alors lui avait designé toute une soirée où on allait visiter ses peurs, on allait les écrire sur des tableaux, et puis on arrachait tout ça, on chiffonnait les feuilles, on allait les jeter au feu. Donc ça avait l'air d'être une transformation quasiment tribale et rituelle, extrêmement organisée. Donc j'avais été très impressionnée en me disant bon ben voilà, il faut faire tout ça, donc il faut lister ses peurs, il faut faire tout ça pour marcher sur le feu. Sauf que de retour en France, bien des années plus tard, je tenais à ce moment-là, j'animais une chronique dans une émission de télévision où ma mission était d'aller tester justement des pratiques psychologiques ou comportementales pour les expliquer aux téléspectateurs. Et nous décidons, pour la dernière émission de la saison, d'organiser une marche sur le feu, de faire donc passer toute l'équipe de l'émission et en plus de ça, toute l'équipe de la, toute la rédaction, enfin absolument tous les gens de Psychologie Magazine. Donc nous étions à peu près 150 à aller marcher sur le feu. Sauf que Tony Robbins n'était pas à Paris du tout, et injoignable. Donc il fallait trouver quelqu'un. Et alors quelqu'un m'a dit mais tu as déjà fait, donc t'as qu'à faire passer les gens. J'ai dit alors ça jamais de la vie, je ne prendrai pas en patte.
Oui, c'est ça.
Je tape sur internet et je trouve un gars qui dit qu'il organise des marches sur le feu. Et donc il arrive, donc je lui parle, je dis vous savez faire, il dit oui je sais faire, j'ai déjà fait, etc. Ok, très bien. Il arrive et là la préparation commence, et en fait tout ce qu'il nous a fait faire était de sauter en l'air et à chaque fois qu'on retombait sur ses pieds comme ça, on tirait le poing vers soi en disant yes we can, yes we can, yes we can. Voilà, bon, c'était à peu près ça la préparation.
D'accord.
Donc je commence à paniquer en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, ces gens vont se brûler au dernier degré, parce que ça ressemblait absolument pas à ce qui s'était passé avec Tony Robbins. Eh bien croyez-moi, les 150 sont passés sans se brûler. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce qui avait l'air en apparence assez sophistiqué, finalement c'était exactement la même chose. C'était une histoire d'énergie, de conviction, de certitude en fait en soi que ça va être possible, évidemment d'entraînement de groupe. Mais quand on regarde tous ces ingrédients, finalement, ils existent dans plein de situations que nous traversons. Et aller marcher sur le feu est un danger physique, donc on voit bien ce que ça suppose, mais ça veut dire que donc, par l'entraînement, par la conviction, par simplement l'énergie qu'on met dans les choses, on peut faire des choses formidables. C'est ça que ça veut dire.
C'est très drôle comme anecdote, et je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes qui parfois voilà, on se dit que des choses sont impossibles tout simplement, et puis en réalité comme vous dites, alors tout n'est pas possible grâce à la psychologie positive ou grâce à l'énergie de la conviction, mais en tout cas beaucoup de choses qu'on pensait impossibles le sont. Vous décidez néanmoins de rentrer en France après ces études. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer, et puis qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes rentré sur le terrain français?
Ce qui m'a donné envie de rentrer, c'est le sens de l'humour des Français me manquait beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie, la simplicité des Américains, mais ils critiquent jamais rien. Ils sont très positifs tout le temps, et finalement, je préférais rentrer râler un peu chez moi. C'est-à-dire que je préférais pouvoir allier les deux fronts, à la fois de savoir qu'il y a ce soleil intérieur qui existe et qu'on peut le convoquer, mais quand même de retourner dans ce bocal qui est le mien et qui finalement me touche plus. Donc je suis rentrée. En effet. Et mon premier job quand je suis rentrée a été de travailler sur une question qu'alors il faut imaginer que nous sommes là à ce moment-là au milieu des années 80. Il y avait un sujet qui était absolument révolutionnaire. C'est pour ça que je vous parlais de Far West tout à l'heure. En fait, je suis toujours attirée par les idées qui émergent, les choses qui ne sont pas encore complètement admises, mais qui commencent à pointer leur nez. Et là, en 1986, c'était la qualité de service. C'est-à-dire que, en France, on traitait encore extrêmement mal les clients, et revenant des États-Unis, il y avait quand même cette culture que je partageais avec mes associés de l'époque. Et qui était Philippe Bloch et Ralph Ababou, qui avaient écrit un livre qui s'appelait « Service compris ». Et nous parcourions les entreprises pour leur apprendre que le client était finalement quelqu'un qu'il fallait non seulement bien traiter, mais vraiment plus que ça, pour pouvoir simplement continuer à travailler dans de bonnes conditions. Donc j'ai fait ça. C'était la première manifestation corporate, si je puis dire, de tous ces, mm-hmm. ces enseignements.
Rigolo d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai eu la chance de recevoir aussi Philippe sur le podcast et qui aussi d'ailleurs évidemment m'a beaucoup parlé, alors non pas de psychologie positive mais en tout cas d'optimisme, qui est l'une de ses marottes et qui l'incarne très bien je trouve, donc ça me fait d'autant
oui,
plus plaisir.
Oui, qui l'incarne très bien, ben voilà, c'était ça, nous étions tout petits là aussi de nouveau tous les ouais. deux, et c'était un moment absolument extraordinaire professionnel, parce que nous étions très demandés, le sujet était génial, et puis nous étions en train de changer les choses, et c'est toujours un peu ça qui me donne de l'énergie, c'est d'avoir la sensation que ce que nous faisons sert à quelque chose et change quelque chose et change notamment des paradigmes.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu replonger, donc, parce que je crois que vous avez décidé de repartir faire des études, cette fois vraiment donc, sur la psychologie positive, comme vous l'expliquiez au début, donc via ces cours digitaux à distance, il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui, après toutes ces années de travail plus corporate, après avoir mis derrière vous la période Tony Robbins, PNL, marche sur le feu, qu'est-ce qui vous a donné envie de vraiment vous y replonger? Vous me parliez tout à l'heure donc, de ce job, en fait, qui avait échoué, mais au-delà
quitté.
De ça,
oui.
Oui. Mais au-delà alors, de ça, se reformer vraiment sur des sujets finalement que vous maîtrisiez. Quelle est la différence en fait de la psychologie positive par rapport à d'autres domaines que vous connaissiez déjà?
Alors, le domaine était nouveau, donc il y a une entre l'épisode service compris et tout ça, il y a quand même eu plein d'années, et j'ai notamment travaillé pendant 10 ans à la création de sites internet. Donc ça, c'était de nouveau un Far West, c'est-à-dire que quand internet est arrivé, c'était tout à fait embryonnaire, peu de gens étaient formés à ça, donc il y avait beaucoup d'autodidactes dont j'ai fait partie, qui se sont intéressés à ce sujet parce que c'était quand même un média complètement dément et complètement génial. Et donc j'ai travaillé pendant 10 ans justement à la conception de sites, et puis petit à petit des étudiants commençaient à arriver formés à ces outils digitaux, alors que au début nous étions juste comme ça un peu des pionniers précurseurs,
oui, autodidactes,
de trouver de l'argent, et puis on pouvait comme ça le monter des projets, et donc de nouveau quand tout ça s'est professionnalisé, c'est ce qui m'a donné envie de m'éloigner, c'est-à-dire que ça devenait presque trop mainstream. Ouais. Pour moi, en tout cas, pour m'intéresser suffisamment. Et puis la compétition était rude, hein, par ailleurs, parce que ça y est, il y avait des gens qui s'y prenaient beaucoup mieux que moi. Et donc ça m'intéressait moins. C'est pas parce qu'il y avait des gens qui s'y prenaient mieux que moi que ça m'intéressait moins, mais globalement, ça y est, on ne pouvait plus juste inventer les choses. Il fallait se plier à certaines règles. Et donc ça correspondait moins à mon tempérament. Et à ce moment-là, je me suis intéressée au développement durable, en me disant, après le développement personnel, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus collectives à entreprendre. Donc, me voilà repartie en Californie une première fois pour me former au management du développement durable, et je suis rentrée. C'est là où j'ai pris ce job où je dirigeais les innovations développement durable d'un grand groupe de médias français au moment de la crise de 2008. Et donc, évidemment, les circonstances n'étaient pas favorables à des réformes de ce type, parce que les revenus publicitaires du groupe s'étaient absolument effondrés en 2 mois. Et donc, ça n'était pas le bon moment, mais ça n'était pour moi pas le bon métier non plus, parce qu'il y a quelque chose de très technique dans les révolutions durables, quelles qu'elles soient. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route et que vraiment je préférais me recentrer sur l'individu, ses possibilités, son potentiel. Et à ce moment-là est arrivée donc passée sous mon nez la psychologie positive, qui est une discipline extrêmement récente, parce que jusque-là j'avais étudié la psychologie classique, qui est celle qui s'occupe de nous guérir et de nous réparer. Sauf que la psychologie positive, c'est quelque chose de différent, puisqu'elle s'intéresse à nous lorsque nous allons bien, et qu'elle s'intéresse plus précisément à la partie de nous qui va bien, pour essayer de nous en servir de manière préventive. En partant du principe que mieux nous nous servons de ce qui est déjà fonctionnel au point excitant, performant chez nous, plus nous serons solides pour faire face aux difficultés qui vont se présenter. Et vraiment, je remercie le destin parce que j'ai presque eu 10 ans de préparation pour faire face à ce qui est en train de se passer maintenant. Et c'est maintenant que je me rends compte, parce que je suis quand même frappée très, très, très précisément sur le plan professionnel par cette crise du Covid-19. Et c'est maintenant que je peux taper dans les ressources que j'ai.
Dans les ressources que vous avez construites. Oui. Alors justement, vous me faites une très belle transition, Florence, sur la psychologie positive, ses ressources, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez aussi vulgarisé dans les livres que vous avez écrits. Je voulais vous demander, alors peut-être si je rebondis sur ce que vous me disiez à l'instant, est-ce que vous auriez quelques conseils pour des personnes qui nous écoutent, qui eux aussi souffrent? Je reçois beaucoup de mails d'entrepreneurs qui me suivent, qui me disent que la situation est très compliquée pour eux. Des idées de ressources à puiser en soi dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui, donc pour les personnes qui nous écouteront un petit peu plus tard puisque nous sommes confinés, qu'est-ce que la psychologie positive pourrait nous apprendre? Quels sont peut-être des conseils que vous, Florence, vous pourriez nous donner ou des insights que vous appliquez à vous-même?
Alors, je vais faire tout ça avec immensément d'humilité. D'accord, parce que je crois que les situations de chacun et chacune sont totalement particulières, mais je peux simplement vous dire ce que j'observe ou ce que j'ai
ce que vous appliquez à vous-même éventuellement.
Voilà, ce que je me vois mettre en place et ce qui me donne la sensation de pas être complètement foutu. ce qui est déjà pas mal. Alors, une des choses dont s'est aperçue la psychologie positive, c'est que très souvent, on a envie de corriger ses défauts, il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on ne sait pas, on se dit, si je savais faire ça, c'est ça qui m'améliorerait. Et les chercheurs ont mis en évidence que, certes, on peut faire ça, mais ça consomme énormément d'énergie, ça tient pas très longtemps, et finalement, ça va pas très loin. Alors que notre ressource principale, c'est ce que et qui nous sommes déjà. Qui nous sommes au naturel, qui nous sommes spontanément, et qu'il y a une batterie de qualités dont nous sommes pourvus. Lorsque nous faisons appel à ces qualités qui sont déjà là, elles flottent en surface, donc il suffit d'aller les chercher. C'est là où nous allons avoir les meilleurs résultats, la meilleure sensation de contrôle, et c'est ce qui va nous permettre de faire face au pire. Donc, c'est vrai que dans les années qui viennent de se passer, j'ai donc identifié maintenant, parce que je suis aussi une dame d'un certain âge, c'est un avantage de s'être cassé la figure plusieurs fois, c'est que à chaque fois qu'on s'est relevé, on peut regarder comment on s'y est pris. Et il y a donc une qualité qui, il y en a 24 qui sont listées, donc ce sont des références qu'on peut trouver assez facilement. On n'a pas besoin d'inventer les choses en disant ma qualité c'est. Non, il y a des choses qui ont été établies en regardant des milliers, des centaines de milliers d'êtres humains, parce qu'il y a des choses que nous allons retrouver. Nous sommes de la même espèce, quand même. Donc, en tapant dans cette liste-là, on va trouver les siennes, notamment. La prédominante chez moi est la curiosité. La seconde est la créativité. Alors, on se dit, c'est gentil, mais quand on est dans une crise comme ça, quand on est...
Qu'est-ce qu'on en fait?
Quand on n'a plus de clients, quand on n'a plus de demandes, quand on gère une boîte de 8 personnes dont on ne sait pas comment elle va vivre, parce que c'est mon cas après-demain, en quoi est-ce que la curiosité et la créativité sont utiles? Elles sont fondamentales en ce qui me concerne, parce que depuis le début de cette crise, j'ai dû apprendre 50 trucs que je ne savais pas faire avant. Vous savez, je pense que nous sommes nombreux à l'avoir vécu. Toute cette histoire de télétravail qui a l'air extrêmement simple comme ça. Enfin, on se dit, télétravail, ok. La résistance qui existait jusqu'à il y a 4 semaines. Et quand on voit la manière dont nous travaillons aujourd'hui, c'est-à-dire 4 semaines plus tard, je ne sais pas combien d'entreprises se sont déjà digitalisées et ont télétravaillé alors que ça ne faisait même pas partie de l'univers mental de non seulement des DRH, mais des managers, c'était juste impossible, la confiance qu'on pouvait avoir dans les gens, dans leurs capacités, dans leur implication, etc. Donc, si, en tout cas, pour moi, il est important de lister tout ce que je sais faire. J'ai moi-même fait des programmes digitaux pour le grand public, pour des entreprises, parce que c'est venu comme un élan de survie. C'est même pas un choix stratégique. C'est juste de dire je dois le faire. Donc clairement, et je suis très excitée par ces nouveautés qui sont arrivées. Et elles sont arrivées très, très vite. Et je trouve ça incroyable. Et j'observe la rapidité avec laquelle elles sont arrivées absolument partout. Donc, voici mon... J'appelle ça des super-pouvoirs. Ça, c'est mon super-pouvoir qui est nourri. Et l'autre, le deuxième, celui qui suit juste derrière, c'est la créativité. C'est-à-dire que si vous m'enfermez quelque part, et je considère être enfermée en ce moment... cette incarcération forcée, ma réponse à l'incarcération, c'est d'avoir encore plus d'idées que d'habitude parce que j'ai besoin d'avoir la sensation de contrôler à l'intérieur de mon univers qui est tout petit, de contrôler quelque chose. Et lorsque j'ai une idée que je me permets de la mettre en œuvre et que je l'essaye et que je vois et que je tente et qu'on verra bien, je suis dans... la sensation de mes capacités à l'œuvre. Donc, je ne suis pas dans l'impuissance. Et ce qui va nous miner le moral, et ce qui mine le moral, c'est la sensation d'impuissance. C'est de voir à quel point ce qui se passe autour de nous est large et accablant, et de se dire « je ne peux rien faire ». Alors si, à l'intérieur de notre structure et de notre confinement, quel qu'il soit, quelles sont justement les choses que l'on peut faire ? Vous savez, comme ça, je ne sais pas combien de milliers de gens se sont mis à faire du pain pendant ce confinement.
Oui, c'est vrai. Juste l'idée de pouvoir faire quelque chose, de produire quelque chose.
De produire quelque chose. Et de produire quelque chose qui semblait complètement remis aux autres. Bon, en plus, il y a quelque chose d'assez archaïque dans le pain. Il y a cette nourriture, il y a l'historique. Bon, c'est marrant, hein, c'est un symbole très fort. Mais pourquoi ? Parce que ça nous redonne de la puissance. Et donc, en attendant de pouvoir vraiment déterminer ce que nos entreprises vont devenir, nous avons besoin, nous, en tant qu'individus, de pouvoir piloter quelque chose. Et si ça n'est pas encore ma boîte et son devenir, et puis bon, je sais que tout le monde réfléchit pendant ce temps-là et tout le monde quand même essaye des choses, hein, et nous y compris, mais la solution, on ne l'a toujours pas parce que les conditions ne sont pas déterminées. Là, le 11 mai, ça ne veut rien dire parce que là, avant le 11 mai, ça ne veut rien dire. Dans 6 mois, on saura ce que voulait dire le 11 mai, mais impossible de savoir comment nous serons en septembre. Est-ce que j'exercerai quoi que ce soit de ok, est-ce que un de mes métiers sera réexerçable, je ne le sais toujours pas.
Donc en attendant, très intéressant, je trouve ça très intéressant. Excusez-moi, je me suis permis de vous interrompre. Je trouve ça très intéressant parce que très souvent à l'heure actuelle, la notion de bonheur est associée à un certain lâcher prise. En tout cas, je trouve que ce lâcher prise, notamment pendant le confinement, a été très mis en avant. Beaucoup de personnes qui disent, en tout cas, on ne peut rien faire, on ne peut rien y changer. Donc, il faut l'accepter, une certaine acceptation de la situation que je peux complètement comprendre. Et ce que vous dites, j'aimerais bien comprendre du coup quel est le rapport pour vous entre cette acceptation et ce que vous dites, qui est aussi que le bonheur réside dans l'action, si je comprends bien. Et en tout cas, donc dans ce contrôle et dans le fait de produire, dans le fait de, vous l'avez beaucoup mieux formulé que moi, mais d'avoir cette puissance. Est-ce que vous pourriez me dire, du coup, qu'est-ce que vous évoque cette notion de lâcher prise ? Est-ce qu'elle est nécessaire malgré tout ? Est-ce qu'elle doit être conciliée ? Est-ce que pour vous, c'est au contraire quelque chose de néfaste parce que ça signifie qu'on laisse la puissance ?
Non, j'ai complètement lâché prise. D'ailleurs, c'est la rapidité avec laquelle j'ai lâché prise. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis conférencière, c'est mon métier. Donc ce que je fais absolument avec passion et engouement, c'est de m'intéresser à des sujets, de m'en imprégner, de plutôt aller chercher des choses dont on n'aurait pas complètement entendu parler, de les expérimenter et de venir les raconter, donc les formuler. Je suis donc mon propre, lorsque je donne une conférence, et dans cette part-là de mon activité, je suis mon propre média. C'est-à-dire que je suis à la fois mon produit, mon média, ce que vous achetez quand vous achetez une conférence, c'est Florence. Donc, il y a comme ça, depuis, en tout cas, il y a un mois encore, une notion qui était que quand on me faisait venir pour une conférence, de plus en plus, les gens disaient, bon, ça vous ennuie pas, hein, on vous filme, et puis comme ça, on va repasser la conférence dans notre entreprise. Alors, je leur disais, mais si, bien sûr, ça m'ennuie. puisque ce que je viens vous proposer, c'est une expérience, c'est un moment d'inspiration, etc. Mais vous n'achetez pas, ça n'est pas mon image en entier que vous achetez pour l'éternité. C'est ce moment que nous faisons ensemble. Mmh. Donc, j'avais des conversations, parce que ça aussi, bon, c'est toute la question du droit d'auteur. Nous sommes des auteurs, nous, conférenciers. C'est vraiment, il y a quelque chose de très particulier que nous apportons. Et non, il y a encore un mois, l'image qui va avec, eh bien, n'en faisait pas partie. Ouais. Donc, parfois, les discussions, les négociations étaient un peu tendues, se résolvaient. Il y avait des façons de les résoudre, etc. Si on regarde ce qui s'est passé en 4 semaines, donc plus personne ne peut aller nulle part, nous avons quand même besoin de parler ou de nous exprimer. Comment allons-nous nous exprimer, nous, conférenciers ? Exclusivement en vidéo. Donc, vous voyez, typiquement, quand vous dites « est-ce qu'il n'y a pas du lâcher-prise ?», je suis obligée de pulvériser des paradigmes qui étaient les miens et qui étaient construits et que j'avais mis des années à construire en exactement 4 jours pour inventer une nouvelle façon de travailler, de m'y plier, et en plus d'essayer de le faire en réformant les choses pour que l'expérience soit encore différente. Mmh. Le lâcher prise, c'est vraiment, si ce qu'on fait ne marche plus, il faut faire autrement. Oui. On y revient. Si je me cramponne à ce que j'avais, ce que je connaissais, ce que je savais faire, et vraiment, j'étais hyper sérieuse et même je passais mon temps à c'était très prosélyte à aller voir les autres conférenciers.
Oui, ça devait être un principe.
C'était même un combat au sein de ma profession où je disais aux conférenciers, écoutez, vraiment les gars, il y a quelque chose que nous dévalorisons. Bon, ben voilà, c'était il y a un mois. Je ne peux pas vous dire comment ça sera dans un mois, mais indispensable de laisser filer ce qui n'a plus lieu d'être. Et si nous abandonnons des principes, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ne tiennent plus debout. Et c'est ça, je crois, l'agilité dont nous avons besoin, nous tous, entrepreneurs ou responsables d'équipe ou autres, c'est de se rendre compte que là, il n'y a que la souplesse qui va marcher. Absolument. Alors si j'ai un conseil pratique, tout le monde se met au yoga, pas parce que c'est à la mode, mais parce que ce que le corps est capable de faire entraîne ce que l'esprit sera capable de faire. Ça, j'en ai déjà fait l'expérience où vraiment en allant travailler sur mon corps tout simplement pour gagner en souplesse, ça m'a en général permis de faire des sauts périlleux dans mes choix professionnels ou dans des décisions que j'avais à prendre. Donc il faut faire feu de tout bois pour se sortir de là, je crois.
Je pense que malheureusement, on n'a effectivement pas le choix, mais comme vous êtes quelqu'un de créative, d'après ce que je comprends, je suis sûre que vous allez réussir à en tirer de belles opportunités, au contraire. Donc, je ne me fais pas de soucis, même si j'imagine que la situation est loin d'être évidente dans le cadre de votre métier actuel. Je voulais malgré tout continuer à parler du bonheur, puisque c'est une notion que vous avez beaucoup travaillée, et je crois même savoir que vous avez parfois, en fait, le titre, on vous donne ce titre de docteur en bonheur.
Non, professeur
de bonheur, très bien. Professeur de bonheur, le bonheur pourtant paraît quand même être une notion vraiment très floue. Et moi-même, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais au fond, c'est quoi le bonheur ? Et je me suis rendu compte qu'évidemment, j'en avais strictement aucune idée. J'imagine que c'est pas évident de le dire, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques à ce sujet pour essayer de l'expliquer. Et notamment dans cette période, je pense que c'est important d'en parler. Donc, je voulais savoir s'il y avait justement peut-être non seulement des moyens de le susciter, mais aussi une sorte de définition, une acceptation en tout cas, peut-être un moyen de constituer le bonheur, de l'expliciter, qui nous guiderait en fait pour justement essayer de nous dire, ben voilà, là, est-ce que je suis heureux ou pas ? Je ne sais pas si c'est une question qu'il faut se poser, mais peut-être qu'on le sent tout simplement, mais si vous aviez peut-être quelques éléments à nous donner sur le sujet du bonheur que vous maîtrisez très bien.
Oui, alors plutôt que de se dire est-ce que je suis heureux ou pas, parce que ça c'est une réponse oui ou non, je crois qu'il vaut mieux se demander en quoi suis-je heureuse ou heureux, ou quelle partie de moi est heureuse ou heureux, surtout en ce moment, parce que il y a quand même une chose dont on se rend compte. J'ai lancé donc pendant toute cette période de confinement ce que j'ai appelé un journal de confinement, qui est une question quotidienne posée à donc ma communauté, les gens peuvent venir y répondre, etc. Et autant au début, nous étions très portés sur l'inquiétude, parce que c'est ce qui s'est passé au début de ce confinement, autant petit à petit a commencé à apparaître, parce que c'est tout un des objets de cette psychologie positive, je vais revenir au bonheur dans un instant, c'est de bien avoir compris l'importance de la gratitude. La gratitude, c'est d'être capable de célébrer ce qui est formidable et de dire merci tout simplement pour ce qui est formidable quand il y a des choses formidables. Et en fait, plus ça allait, plus on avançait dans ce confinement, plus les gens finalement reconnaissaient et commençaient à lister ce qu'ils adoraient du confinement. Je ne dis pas ce qu'ils supportaient, ce qu'ils adoraient du confinement.
Les plaisirs des confinements.
C'est évidemment. Et si vous vous posez la question, il y en a des centaines de plaisirs du confinement. Mmh. Or, on se dit très souvent que le bonheur dépend de nos circonstances extérieures. Donc typiquement, si là je suis dans une situation que je n'ai pas choisie, qui est où je ne peux pas sortir, où je suis vraiment restreinte, et c'est vrai que quand même sur le plan physiologique, nous avons besoin de voir des gens, donc c'est un peu problématique. Mais en dehors de ça, à l'intérieur de tout ça, si on regarde bien, il y a myriades de bienfaits dans cette situation. Donc c'est là où je vous dis que plutôt que de se dire est-ce que je suis heureuse ou pas, c'est de se dire qu'est-ce qui dans tout ça me rend heureuse. Et qu'est-ce qui ne me rend pas heureuse? Et tout est une question non seulement d'équilibre, mais de variation. Parce que là aussi, quand on regarde le bonheur, vous le disiez vous-même, c'est une notion assez floue. Elle le reste, hein, je suis désolée, je ne vais pas vous donner une définition du bonheur qui sera plus précise. Mais ce qui fait qu'on perçoit le bonheur et qu'on se rend compte qu'il est là, c'est parce qu'en fait, précédemment, il n'était pas là. Ou qu'il va s'enfuir de nouveau. Et c'est dans les variations que nous vivons que nous mesurons absolument la merveille de se sentir bien quand on se sent bien. C'est ça le bonheur. C'est de se rendre compte de temps en temps que waouh, c'est génial. Alors que parfois aussi, on va se rendre compte que c'est pas génial du tout. Mais ça aussi, ça va changer. Nous sommes dans un mouvement permanent. Donc le bonheur, c'est juste le sommet de ce mouvement. Quand nous l'atteignons, et puis forcément, nous allons redescendre et voyager à différents niveaux, forcément.
C'est absolument passionnant, mais je comprends un petit peu mieux l'expression « le miel et le vinaigre » ou ce genre de choses qui finalement signifie que le bonheur n'est possible que parce qu'il y a aussi du malheur. Et finalement, la possibilité d'être heureux toute la vie sans aucune, comment dire, de façon complètement plate, quoi. Si je reprends cette image que vous avez dite de la montagne russe, un petit peu du bonheur et des difficultés, en fait, finalement, les difficultés sont source de bonheur, quoi, d'une certaine manière, si je comprends bien.
Mais surtout, une vie sans difficulté n'aurait aucun intérêt. On ne s'en rendrait absolument même plus compte. Ce que nous aimons dans nos climats tempérés, même si tout le monde peste contre l'hiver, c'est que le printemps revient. Et que si nous vivions dans un climat complètement permanent où il fait beau absolument tout le temps, on n'aurait plus du tout cette sensation et ce bonheur absolu de voir revenir le printemps ou le soleil. Donc c'est vraiment ces variations qui nous constituent et qui donnent du relief à l'existence, tout simplement.
Très intéressant. Florence, comme le temps passe, je vais terminer par les petites questions que je pose toujours à la fin du podcast, qui sont donc mon crible du gratin. Et je voulais commencer par vous demander, puisque vous avez donc plusieurs vies, plusieurs métiers, peut-être en ce moment, alors avant confinement, hein, on va dire, mais puisque vous êtes à la fois écrivain, conférencière, on l'a dit, vous avez été journaliste aussi. À quoi ressemble une journée type de Florence? Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez des petits rituels, des choses que vous faites tout le temps? Est-ce qu'il y a au contraire une énorme liberté et que vous laissez porter? Voilà, n'hésitez pas à être assez précise et à me dire à quoi ressemble votre journée type.
Alors, il faut que je vous parle en semaine, parce que, donc avant tout ça, le lundi, vous parlez de rituel, le lundi est chez moi, il le reste entièrement consacré à l'écriture. C'est-à-dire que tous mes travaux silencieux et solitaires se font le lundi où je disparais. C'est ce qui m'a d'ailleurs permis d'écrire mon dernier livre qui s'appelle Bloom, et ce qui est sur l'écriture qui fait du bien, parce qu'il y a vraiment aussi une notion quasi thérapeutique dans l'écriture. Donc le lundi, je m'enferme, j'écris. Le mardi, le mercredi, le jeudi sont consacrés à deux choses, au management de mon entreprise, qui est une entreprise de formation, et à mon métier de conférencière. Donc, c'est plutôt là que, normalement, je suis en voyage dans des trains ou que je me déplace pour aller à la rencontre de mes clients et de salles ou autres. Et le vendredi, c'est là où je vais faire ce que j'appelle l'école buissonnière, c'est-à-dire que je suis en train de travailler, mais on ne sait pas où je suis. Et ça, c'est une notion très... Enfin, c'est un truc dont j'ai besoin.
Malgré votre équipe donc de 8 personnes, vous fuyez d'une certaine manière, vous disparaissez.
Oui, je m'en vais. Alors ils sont très autonomes et très professionnels, mais il y a déjà 3 jours de la semaine qui sont consacrés à ça. Évidemment, toutes les questions sont adressées. Mais de nouveau, c'est là où je vais plutôt donc à ce moment-là le vendredi être en contact avec des gens. C'est là où je vais donc rencontrer des gens. Ça n'est plus le travail solitaire. C'est la partie plus dynamique et relié de ce dont j'ai besoin pour continuer tout simplement à avancer dans mes apprentissages et dans tout ce que j'ai à faire professionnellement, mais ça va pas être à mon bureau. Voilà, donc c'est une semaine, ça c'est une semaine de rêve. Ça me manque.
Oui, alors justement, parlons quand même un tout petit peu du confinement. Est-ce que vous avez continué à respecter un tout petit peu ces rituels? C'est-à-dire, qu'est-ce que le lundi, vous continuez l'écriture? Alors bon, là, j'imagine qu'en ce moment, le vendredi, c'est plus difficile de partir faire l'école buissonnière. Mais peut-être qu'au moins, vous pouvez, je sais pas, rencontrer des gens via tous les moyens de télévidéoconférence qu'on va avoir ou tout simplement via téléphone. Ou est-ce que vous avez dû mettre vraiment complètement en sourdine ces rituels?
Alors, d'abord, je n'ai pas écrit le lundi jusqu'à la semaine dernière. J'ai pu récupérer mon lundi la semaine dernière parce que vraiment nous étions dans l'urgence et que toutes ces questions de développement personnel et de respecter son rythme, etc., sont formidables quand on est en sécurité. Or, sur le plan professionnel, nous n'étions pas encore en sécurité. Donc, ma priorité absolue était justement de voir ce que nous pouvions mettre en place, réformer, inventer, imposer. Enfin bon, voilà, ça c'était. Je me suis retroussée les mains. Mais la semaine dernière, j'ai donc annoncé à mon équipe que je reprenais ce rythme du lundi, tout simplement parce que ce livre dont je vous parlais va être déconfiné, il sort le 2 juin prochain, et qu'il est accompagné de tout un travail, donc d'un atelier d'écriture que l'on peut suivre, etc. Et j'ai absolument besoin de me remettre à la production de cet atelier, qui est un outil fantastique, mais que j'ai laissé de côté en parlant au plus pressé. Donc, je retrouve ma santé mentale en pouvant reprendre ce travail créatif. Et je viens en vous écoutant, de me rendre compte que, donc, confinée, je suis très peu sortie. Hein, j'ai tout à fait observé ce que le gouvernement nous a demandé. Et donc, en fait, le vendredi, c'était le jour où j'allais faire les courses. Voilà, c'était mon tour.
D'accord. C'est très bien. Comme ça, vous avez quand même un petit peu respecté votre rituel.
Oui, finalement, je ne peux pas m'en défaire.
Une question que j'aime bien poser, Florence, c'est par rapport à des conseils qu'on vous aurait donnés, peut-être des mentors que vous avez eus. Est-ce qu'il y a un conseil particulièrement qui vous a marqué, que vous pourriez nous partager, un conseil, que ce soit sur la vie, que ce soit du développement personnel, que ce soit de la psychologie positive, ou peut-être même tout simplement un conseil business?
Pas vraiment. Je crois que celui justement avec lequel nous avons commencé, c'est à peu près une des phrases qui est restée avec moi depuis cette Californie où j'étais toute petite. Il y a une phrase que j'ai postée sur les réseaux cette semaine qui me plaît beaucoup et qui résume pas mal, je crois, le fond de mon travail et de la manière dont je le fais et de ce que j'essaye d'enseigner. C'est une phrase de Brené Brown. Alors, Brené Brown est une chercheuse comportementale assez marrante parce qu'elle a comme ça, elle est texane, elle a un accent génial et une façon de regarder les choses qui est toujours assez bien résumée, qui dit la chose suivante. Elle dit « Reste dans ta file parce que se comparer tue la joie et la créativité ». Et je crois que ça, j'en suis persuadée, nous passons tellement de temps à regarder à droite et à gauche comment sont les autres pour nous conformer à ce qu'ils sont, que ça nous empêche complètement de nous y prendre à notre façon. Et que c'est vraiment à notre façon la seule manière, non seulement de nous en sortir, mais de réaliser des grandes choses, de nous éclater, et puis surtout de nous redresser quand on a besoin de se remettre debout, comme en ce moment. C'est d'être dans sa vie.
Et puis de connaître ses forces aussi, comme vous disiez, bien sûr. connaître ses forces aussi et ses faiblesses, comme vous disiez, puisque bon, bah, c'est, les vôtres ne sont pas celles certainement de, des personnes avec lesquelles vous comparez. Donc parfois, on se compare aussi sur des terrains qui sont complètement différents.
C'est ça.
Est-ce que à ce sujet, parce que je pense que c'est effectivement une problématique pour beaucoup beaucoup de personnes. Bon, on dit souvent que c'est beaucoup lié à l'essor des réseaux sociaux, c'est vrai, mais je pense pas uniquement. C'est quand même un mal, on va dire, profondément humain. Est-ce que premièrement, peut-être vous souffrez également de ce mal, Florence, de temps à autre malgré tout. Et si oui, est-ce que vous avez réussi, peut-être pour vous toujours, j'essaie d'être assez pratique, à mettre en place en fait des petits outils, des petits garde-fous, des moyens en fait, vous dire oh là là, là je suis en train de commencer à regarder à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Cette personne, est-ce qu'elle a plus de followers que moi ou je ne sais quoi? Est-ce que vous avez réussi à voilà, mettre en place en fait, des petits garde-fous pour essayer d'éviter d'être tenté ou en tout cas de ne pas en souffrir?
Le périscope, j'y reviens. C'est évidemment, pour, vous savez, je le dis vraiment absolument sans m'en cacher, pourquoi est-ce que la psychologie positive me plaît autant? Et pourquoi est-ce que lorsque j'ai rencontré cette matière et cette somme d'informations et de conclusions, de recherches, etc., pourquoi je me suis vraiment engouffrée là-dedans avec autant d'énergie, c'est parce que ça m'est totalement utile. Et que, évidemment, ma tendance personnelle va être, comme tous les humains, de regarder à côté, de me comparer, de prendre peur parce que je vois les uns qui font ceci, les unes qui font cela, en me disant « Oh là là, est-ce que j'ai 4 minutes de retard ou pas ?» Et au moins, ce que je sais faire maintenant, c'est que tout à coup, le périscope, tu vois, c'est comme dans un sous-marin, va se mettre à sonner « tut, tut, tut », et je me vois faire, et ça me permet de dire « mais arrête !» Et hop, je reprends ma route à moi. Et c'est vrai qu'au fil du temps, évidemment, on prend beaucoup plus confiance dans la manière dont on fait les choses, et finalement, ça s'est toujours passé comme ça, et on s'en est sorti. Donc, quel besoin pourrait-on avoir de s'y prendre comme les autres? Donc, c'est ça, c'est ce périscope conscient, en fait, que je sors pour regarder d'au-dessus et pour me signaler que je suis en train de déconner, tout simplement. Donc, ça me permet de me calmer et de repartir un peu plus sereinement.
Sur votre propre route.
Sur ma propre
route. Pour parler de votre route, justement, vous avez donc ce livre qui va bientôt sortir. Je voulais vous demander de me parler un petit peu du contenu de ce livre, de ce qui vous a poussé à l'écrire et donc de aussi peut-être des détails sur sa publication pour qu'on puisse le trouver puisque l'épisode sera publié avant la fin du déconfinement, je pense. Et donc, je voulais avoir des détails en avant-première.
Alors, c'est un livre qui s'appelle Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer. Ça commence comme ça. Je suis donc le lundi dans ma cabane d'écriture et je décide que je dois maintenant faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait parce que c'est un peu mon tempérament et donc je vais écrire un roman parce que ça, je ne l'ai jamais fait. Donc, me voilà partie à essayer d'écrire un roman. Et de ma vie, je n'avais rien encore traversé de plus difficile. Donc, je me suis tapé la tête absolument contre tous les murs, les coins de cette cabane à l'intérieur, à l'extérieur. Bref, impossible. Ça ne m'était pas possible ni accessible d'écrire un roman. Mais plutôt que de perdre mon temps comme ça, alors évidemment, j'étais très frustrée, je m'en voulais beaucoup, je me faisais plein de reproches, je me disais, enfin quand même, tu devrais être capable, tu sais écrire, etc. Pendant ce temps-là, je me suis donc lancée dans des expérimentations. J'ai participé à des cours d'écriture, j'ai commencé à lire des recherches, j'ai commencé à essayer de trouver comment on s'y prenait. Et je suis tombée évidemment sur une mine d'informations absolument fantastiques sur le sujet pour me rendre compte que finalement, ma place, mon plaisir et presque peut-être même mon talent n'était absolument pas d'écrire un roman, mais qu'en attendant, j'avais appris une quantité de choses absolument phénoménales et que l'urgence était de les raconter en fait, de nouveau et de les partager. Donc j'ai créé un atelier d'écriture l'an dernier, entièrement en ligne, parce que ça aussi, je voulais que les gens puissent le faire comme j'avais été obligée de voyager aux États-Unis pour aller écrire et tout ça, je me suis dit c'est quand même plus simple à la maison. Donc j'ai inventé tout un dispositif et il y a plus de 800 personnes qui sont venues s'y inscrire, donc j'ai vraiment eu une expérience et une expérimentation à taille, comme ça, en taille réelle, dont j'ai beaucoup appris. Et à l'issue donc des 4 mois d'écriture que nous avons fait ensemble, c'est là où j'ai décidé de me poser et de raconter tout ça. Et de raconter cette méthode d'écriture, en fait. Donc, ça n'est pas une écriture pour devenir écrivain ou remplacer qui que ce soit, mais c'est tout ce qui est à notre disposition pour nous servir de l'écriture, pour nous faire du bien, pour nous réparer, parce que l'écriture peut réparer, ou pour nous éclater. parce que il y a une dimension créative quand même avec l'écriture. On n'a pas besoin d'écrire de romans. Je le démontre. Enfin, en tout cas, je le vis tous les jours. On n'a pas besoin d'écrire de romans pour aimer écrire et pour que ça provoque des sensations absolument intéressantes. Ça permet de grandir. Ça permet de se supporter. Enfin, ça permet de faire plein de choses. Et donc, ce livre, c'est ça. Donc, cette année sort d'une part le livre, mais également une nouvelle expérience d'écriture qui va avec pour qu'on puisse en fait essayer tout de suite. Et donc c'est ça, c'est ce sujet-là que je trouve là de nouveau très très excitant. Et c'est vrai que pendant le confinement, mon élan a été donc d'offrir des expériences d'écriture sous plein de formes. D'ailleurs, lorsque je vais vous quitter, un atelier va commencer. Donc les gens sont chacun chez eux et nous écrivons ensemble. Et c'est un kiff, quoi. C'est un kiff absolu.
Et vous pourriez juste m'expliquer en deux mots à quoi ressemble physiquement un atelier, c'est-à-dire que vous allez faire physiquement travailler des personnes, donc à distance, hein, j'entends bien, mais vous allez faire travailler des personnes sur un sujet, vous leur donnez un sujet d'écriture, vous les faites, qu'est-ce qui se passe concrètement ?
Oui, là concrètement, c'est ça, on va tous se connecter à la même heure, et je vais donner une consigne d'écriture, et puis on va écrire, et puis on va lire nos textes. Voilà, mais donc on a du public, on a des gens qui vont nous entendre, on va voir comment chacun, le cerveau de chacun réagit à la même consigne, on va se concentrer, on va avoir un peu peur, on va un peu se comparer, on va réussir tout ça en une heure et demie. Donc c'est quand même beaucoup d'émotions assez sûr. Simplement. C'est ça.
Pour rendre, on va dire, beaucoup plus collectif, quelque chose qui souvent est très personnel et très solitaire, hein, l'écriture. Donc, je trouve que c'est vraiment une excellente idée de pouvoir faire ça en groupe et de pouvoir partager justement ces moments qui sont loin d'être simples quand on essaie d'écrire. Donc, je comprends complètement
la démarche. Oui, et vous savez, ça, c'est une chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une différence énorme entre une écriture intime que l'on fait pour soi, qui ne sera vue par personne, et une écriture qui a des lecteurs et des lectrices. Mais on a toujours l'impression que pour avoir des lecteurs ou des lectrices, il faut être publié. Eh bien, ça, c'est faux. Puisque, justement, dans des systèmes tels que celui que j'ai conçu ou dans tous les ateliers d'écriture qui existent, pourquoi est-ce que les gens y vont? C'est parce qu'ils ont à cet endroit-là des lecteurs et des lectrices. Et que texte prend vie quand il est lu, en fait. Donc, ça rend l'œuvre, ça termine l'œuvre, en fait. Et c'est très, et c'est beaucoup plus exaltant comme ça.
Florence, vous me faites une belle transition vers ma dernière question, qui est toujours la même au sujet des livres justement que vous pourriez nous recommander, qui peuvent être soit des biographies, des livres de business, de psychologie, pourquoi pas, mais un livre qui vous aurait particulièrement marqué, impacté dans votre vie.
Alors il y en a qui me plaît beaucoup justement sur ces sujets-là, parce que c'est un peu mon sujet du moment, qui s'appelle Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Elizabeth Gilbert est une romancière américaine. C'est elle qui a écrit Manche prix M. Alors elle écrit des livres qui sont lus comme ça dans le monde entier, etc. Mais c'est surtout un personnage assez drôle. Elle est drôle. Je pense qu'elle est un peu bipolaire. Elle le dit elle-même. Hein, ce n'est pas du tout un jugement que je fais sur elle. Donc elle traverse des périodes de dépression. Elle fait et puis des périodes d'exaltation. Et puis bon, bref. C'est une créative assez géniale parce qu'elle sait raconter sa créativité. Et ce livre qu'elle a écrit Comme par magie est vraiment un manuel de libération de sa créativité que je recommande absolument, parce que n'importe qui peut y reconnaître des morceaux de lui ou d'elle-même, et que c'est vraiment une aide fantastique, parce que c'est un livre qui donne plein d'autorisations en fait. Donc j'ai adoré tomber dessus, j'ai adoré ce que j'y ai lu, et ça m'a juste donné envie de courir comme un poney fou quand on est refermé. Donc je considère
mais
que
ça, c'est drôle, parce que j'ai lu Eat, Pray, Love de Elizabeth Gilbert, mais justement j'avais beaucoup entendu parler de celui-ci, et là vous me donnez très envie de lire. En plus c'est un sujet qui est pas évident, savoir justement un peu susciter, générer de la créativité. J'imagine qu'on va apprendre plein de choses, donc je note ça et je le mettrai en tout cas dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour le partage. Florence, merci mille fois pour votre temps. Je vais vous laisser tranquille, je vais vous laisser retourner à votre atelier. Néanmoins, si on cherche à vous trouver, notamment sur les réseaux sociaux où vous êtes active, mais aussi tout simplement via votre site, où est-ce qu'on peut le faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Oui, vraiment la partie, la façon la plus simple, non seulement de me trouver, de comprendre ce que je fais, d'entrer en contact avec moi, de profiter de ce que je sais, est un site internet qui s'appelle florencecernanschreiber.com. En un seul mot. Et si vous tapez Florence Hermann-Schreiber sur Internet, probablement c'est là que vous atterrirez. Vous pouvez y découvrir l'académie en ligne de psychologie positive qui s'appelle la 3 Kiff Academy que j'ai créée, dans lesquelles on peut trouver des ateliers auxquels participer, des choses que l'on fait chez soi, des choses que l'on fait à distance, des choses que l'on fait en ville. Vraiment, mon idée, c'est d'enseigner, c'est d'apprendre. Il y a tout un tas d'outils. Et puis surtout, je travaille beaucoup avec les entreprises et c'est ça peut-être... presque la partie favorite de mon travail, parce que je considère que c'est dans les entreprises aujourd'hui que la connaissance se partage, presque après l'université. Franchement, notre éducation n'est pas terminée. Et c'est à cet endroit-là que les gens ont la chance de pouvoir être exposés à des gens comme moi et d'autres. Et ça, je trouve que c'est un cycle extrêmement vertueux. Je prie pour qu'il revienne le plus vite possible, celui-ci.
Ça sera le cas. Et puis, je suis sûre que vous allez trouver sinon des moyens d'innover, peut-être effectivement via des conférences à distance, même si c'est pas tout à fait la même chose. Mais je suis sûre que ça sera le cas. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie vraiment pour votre temps, pour tous ces partages, pour votre gaieté, votre bonne humeur, comme d'habitude. Et puis, je vous dis bien sûr à très bientôt.
À très bientôt. Merci.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legno, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.